en direct. Père Mérès, que Dieu te bénisse. Je continue à parler parce que je ne sais pas si c'est bon. Ok, on vient me dire que c'est bon. Alors, on est, nous sommes là. Par la grâce de Dieu. Donc, bonsoir à tous qui êtes déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Très content d'être connecté avec vous et ensemble connecté au Seigneur. La meilleure connexion qu'on peut avoir, c'est pas celle qui donne l'Internet, mais celle qui donne la vie éternelle. C'est celle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien content de pouvoir m'adresser à vous et de pouvoir partager encore une fois la parole de Dieu. On continue toujours avec l'étude dans Marc, en se basant sur l'évangile de Marc, parce que c'est l'évangile qui présente Jésus comme le serviteur. Et puisqu'on touche le service et les défis dans les temps que nous vivons, alors je pense que Dieu avait vraiment préparé ce temps pour que nous puissions également apprendre à être de meilleurs serviteurs, de bons serviteurs, que le Seigneur, à la fin de notre course, puisse dire « bon serviteur et fidèle ». Alors, nous rendons grâce à Dieu et nous allons prier. Nous allons remettre ce temps des mains du Seigneur et par la suite, on va y aller. Alors, prions. Remettons ce temps des mains du Seigneur. Merci Jésus pour la journée, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour le salut, Seigneur, de notre âme, pour la vie éternelle qui est si précieuse, Seigneur, qui est aussi le résultat du pardon de nos péchés. Et Seigneur, de l'annulation de l'acte de condamnation qui était sur notre vie à cause, Seigneur, de notre nature pécheresse. Mais toi, Seigneur, tu t'es fait homme, tu t'es fait serviteur, Seigneur, et tu as obéi jusqu'à la mort. Tu es allé à la croix pour mourir, Seigneur, à notre place, pour prendre sur toi non seulement le châtiment, mais prendre aussi mon péché. Et tu es devenu péché pour moi, pour nous tous. Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand, tu es si précieux. Et merci pour la parole, Seigneur, à travers laquelle, Seigneur, tu travailles dans nos vies, Seigneur, dans laquelle nous pouvons plonger, Seigneur, nos regards et être transformés. Seigneur, ce soir, transforme-nous. Ouvre encore plus nos yeux. Nous sommes dans une période de cet enseignement, Seigneur, où tu nous parles, Seigneur, de l'importance d'avoir les yeux ouverts. La réalité, Seigneur, de l'aveuglement humain, Seigneur, et spirituel. Et le travail, Seigneur, que tu fais dans nos vies, dans notre cœur. Alors, Seigneur, agis. Que ce ne soit pas, Seigneur, juste intellectuel, qu'il n'y ait pas juste, Seigneur, un ensemble de connaissances qui soient transmises, mais que la puissance, Seigneur, de ta parole puisse agir et porter du fruit pour l'éternité. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes toujours dans les livres de Marc. J'espère que vous êtes bien au chaud, bien installés, parce qu'il fait frais dehors. Donc, nous allons dans Marc. Mais avant, il y a une petite annonce, plutôt une annonce importante à faire. C'est pas une petite annonce, c'est une annonce importante. Il y a déjà, je pense, sur Facebook, qu'on retrouve la convocation pour l'Assemblée générale annuelle. Et c'est l'Assemblée annuelle générale des membres de l'Église qui aura lieu mardi 22 décembre. Donc, mardi prochain à 19h, c'est la rencontre où d'habitude nous la tenons dans le premier semestre de l'année et dans laquelle nous faisons état de la situation de l'Église d'un point de vue administratif. Donc, c'est pour cela que c'est réservé aux membres. Donc, ça aura lieu sur la plateforme Zoom et assurez-vous, si vous voulez recevoir le lien, de faire partie de la liste, donc d'envoyer vos coordonnées, votre nom, vos coordonnées au secrétariat, à l'adresse courriel secrétariat eajc@gmail.com. C'est important, vous pouvez toujours rappeler. Le numéro de téléphone, c'est le 514-273-8295. Mais c'est important. C'est important d'assister, si vous êtes membre de l'Église, de prendre part à cette rencontre, donc d'y assister. Et donc, c'est important d'avoir le lien Zoom. Donc, c'est important de faire partie de la liste. Et donc, c'est important d'envoyer vos coordonnées. Donc, beaucoup de choses qui sont importantes d'ici mardi pour que vous puissiez participer. Donc, c'est quelque chose qui est une obligation également de l'Église de tenir ce genre d'assemblée-là. Et nous le faisons avec joie de pouvoir informer l'Assemblée sur ce qui s'est passé durant l'année et également un peu de les grands projets pour l'année suivante. Alors, voilà pour l'annonce. On va la répéter à la fin pour ceux qui se joindront à nous plus tard. Mais je dirais que c'est important de pouvoir vous le dire, étant donné qu'il y a quand même peu de temps. D'habitude, on l'a annoncé avec un petit peu plus de temps, mais bon, c'est correct. Voilà pour l'annonce. Donc, allons maintenant à Luc. Pardon, pas à Luc, à Marc. Luc, ça va être après, quand on aura fini Marc. L'Évangile de Marc, chapitre 8, et on va lire du verset 31 au verset 33. Par la suite, on va faire un bref survol de la semaine dernière. Donc, Marc, chapitre 8, verset 31, nous lisons. « Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant, regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Quand les autres disciples ont entendu ça, certainement qu'ils n'ont pas dit « Amen », ils ont sûrement dit « Ouch ». Et nous également, lorsque nous lisons cela, nous pouvons dire « Ouch » aussi. Un peu particulier comme événement, les quelques instants avant le passage que nous avons lu, et ce que nous avons couvert dans le fond la semaine dernière, c'est ce même Pierre qui a cette révélation de la part de Dieu par rapport à Christ, par rapport à l'identité du Messie. Ses yeux sont ouverts pendant un instant sur l'identité, sur la personne de Christ. Et quelques minutes après, il se fait réprimander assez sévèrement. Mais bon, on va en discuter ce soir. On va parler de ça sûrement qu'on va ressortir des éléments importants pour nous, pour notre vie, pour le service au Seigneur. Retour sur la session précédente. De quoi avons-nous parlé la semaine dernière? Nous avons parlé de cet endroit où est-ce que Jésus et les disciples se trouvaient, que ce n'était plus la Galilée. Ils étaient en Césarée de Philippe. Et ce lieu était important, cette région était importante pour plusieurs raisons. Et elle avait aussi une symbolique qui rend ce passage que nous avions lu auparavant très important. On avait vu qu'à Césarée, il y avait plusieurs religions, croyances, plusieurs spiritualités qui étaient implantées, qui avaient été établies depuis longtemps, qui faisaient partie des mœurs, des coutumes de la société. On trouvait qu'il y avait des temples, il y avait la présence du culte à Baal, qui était cet ennemi spirituel d'Israël depuis, Depuis qu'Israël était rentré en terre promise, Baal était cet esprit, cette idole qui a causé beaucoup de tort, malheureusement, à Israël. C'était également le lieu où ce que, il y avait la grotte de Pan, et il y avait également la présence du culte au dieu grec Pan. Le dieu grec Pan qui représente l'universalité, pardon, qui représente l'ensemble de tout, qui était également le dieu de la fécondité, de la sexualité et le dieu de la musique. Donc, il y avait une forte présence de ce culte, avec également un lieu particulier qu'on appelait la grotte de Pan où des cadavres de sacrifices étaient jetés, soit animaux ou autres. Dans cette région-là, il y avait également un temple qui avait été édifié en l'honneur de l'empereur César Auguste, donc un culte qui était rendu à l'empereur, et ça c'était quelque chose de courant dans l'empire, et l'empereur était considéré comme un dieu, donc il y avait un culte qui lui était rendu, et à Césarée, un temple avait été édifié pour lui rendre culte. Donc voilà d'un point de vue religieux, spirituel, d'un point de vue plus géographique, à cet emplacement-là, on trouvait une des sources principales qui alimentait, qui nourrissait le Jourdain. Et le lien qu'on pouvait faire à ce moment-là, c'était que les religions se voient toutes comme la source de vie pour l'être humain. Toutes les religions, les croyances, les philosophies, les gens y adhèrent parce qu'ils croient qu'en elles, il y a la source de la vie, il y a la source de l'univers, il y a la source de l'être humain. Et c'est ce qu'on retrouve comme symbolique à Césarée de Philippe. Et donc la révélation de qui est Jésus-Christ prend aussi toute son importance parce que ce qu'on dit de Jésus, c'est qu'il est le Fils de Dieu, du Dieu vivant, qu'il est le Messie, qu'il est celui qui va sauver le peuple, qui va sauver son peuple, qu'il est la réponse de Dieu, qu'il est la source de vie, dans le fond, pour toute l'humanité et pour toute la création. On a vu que Jésus a posé une question, qui dit-on, qui je suis? Et ce qu'on a ressorti de ce passage-là, c'est que la comparaison que les gens font de nous, premièrement, va toujours être faite avec ce que les gens connaissent. Et ce que les gens connaissent, et ce que nous connaissons, est tellement limité. Donc déjà, la comparaison que les gens font de nous, elle est mauvaise, elle est erronée, et d'aucune façon on devrait s'y conformer et on devrait baser notre vie sur elle. Parce que ça amène un autre élément, c'est que la comparaison des gens va toujours nous amener à nous rabaisser versus notre vrai et notre véritable potentiel. Rares sont les fois où est-ce que, très rares même, sont les fois où est-ce que nous sommes comparés à des gens plus élevés que nous. La plupart du temps, c'est pour des gens qui sont moins que nous. Dans un contexte où il y a un manque de connaissances et d'informations, qui fait que c'est dangereux, c'est malsain de laisser ces choses-là prendre place dans notre vie. Parce que une chose doit être claire. On ne doit pas se comparer aux autres. Et on ne doit pas baser notre vie sur la comparaison que les gens font de nous avec les autres. Si on doit se comparer avec quelqu'un, c'est avec quelqu'un qui est plus élevé que nous. Et ce plus élevé que nous, avec qui nous devons nous comparer quotidiennement, c'est Jésus-Christ. C'est la seule comparaison qui va nous permettre de nous élever. C'est la seule comparaison qui va nous permettre de devenir meilleurs. Aucune autre comparaison va nous amener à devenir une meilleure personne, à devenir un meilleur être humain, à devenir un meilleur enfant de Dieu, un meilleur chrétien ou un meilleur citoyen. La seule comparaison et le seul ou le meilleur moyen que nous avons de nous comparer à Jésus-Christ, c'est sa parole. C'est elle qui nous parle à chaque fois que nous l'étudions, à chaque fois que nous sommes exposés à elle, elle nous parle. Elle est comme un miroir. Et elle nous permet cette comparaison-là avec Christ. Et donc, je vous encourage, si vous voulez vous comparer avec quelqu'un, comparez-vous avec Christ. Il est plus élevé que tout. Et ça va vous amener dans une autre direction dans la vie. Pierre dit, tu es le Christ. Et on a compris que c'était pas la chair et le sang qui lui avaient révélé ces choses, mais que c'était, en fond, le Père, l'Esprit de Dieu, qui avait révélé ces choses à Pierre. Et par là, on comprenait que c'était vraiment une œuvre de Dieu qui a permis que Pierre ait les yeux ouverts à ce moment-là, qu'il ait cette conception de Jésus, cette révélation de l'identité de Jésus, qui puisse faire également cette déclaration-là. Et de ce qu'on disait, c'est que c'est important d'avoir les yeux ouverts, les yeux du cœur ouverts. C'est important de regarder avec les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, pour connaître qui est véritablement Jésus-Christ. Des gens connaissent tout de la vie de Jésus, ont étudié la vie de Jésus, ont écrit des livres sur la vie de Jésus, mais pour eux, Jésus est un homme. Pour eux, Jésus reste au mieux, un prophète. Mais Jésus, on sait qui il est. C'est Dieu manifesté en chair. C'est le Fils de Dieu. C'est le Prince de la paix. C'est le Conseiller. C'est le Père éternel. C'est l'Alpha et Oméga. C'est Emmanuel. C'est tout ça. Mais comment est-ce qu'on découvre tout ça? C'est pas quelque chose qui est intellectuel. C'est quelque chose qui est spirituel. D'où l'importance d'avoir les yeux ouverts ou de demander que Dieu nous ouvre les yeux. Et c'est une prière que tu peux faire, que je peux faire. Seigneur, j'ai besoin de te connaître plus. Ouvre mes yeux parce que j'ai besoin de te connaître davantage. Et le triste là-dedans aussi qu'on avait dit, c'est qu'on peut être en service. On peut servir Dieu. On peut être impliqué à l'Église. Ne pas connaître Dieu. Ça, c'est triste. Parce qu'on peut être 7 jours sur 7 à l'église. On peut être la personne la plus impliquée dans tous les services et les départements possibles. Et on peut être avec le plus beau cœur, ou la plus belle attitude, et pas connaître le Seigneur. Pas avoir les yeux ouverts sur qui est Jésus. Et ça, c'est triste, parce que c'est une réalité que beaucoup de personnes vivent malheureusement aujourd'hui. Mais l'espoir est qu'il est possible de changer ça. Et on a vu aussi que la révélation de Christ passe avant la définition de ma vie. On a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et par la suite, Jésus dit, ben, et moi je dis que tu es. Bien souvent, nous, on court après notre mission dans la vie, notre sens dans la vie. Pourquoi est-ce qu'on a été créé? Pourquoi est-ce que nous avons été sauvés? Mais par ce passage, on doit réaliser une chose. Notre première quête est de connaître Christ. Et le reste va suivre. Il y a des gens qui veulent connaître leur but dans la vie sans connaître Christ. Et ça ne marche pas. Il y a un ordre. Il faut connaître Dieu en premier. Il faut découvrir davantage Dieu. Et alors qu'on est dans ce processus-là de découverte, mais on découvre également pourquoi est-ce que nous avons été créés et qu'est-ce que Dieu s'attend. Il s'attend de nous. Et en terminant, quand Jésus dit, je bâtirai mon Église, et même le séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il est en train de dire que peu importe le type de régime, peu importe le pouvoir politique, peu importe les circonstances socio-économiques, militaires, spirituelles, religieuses qui se trouvent dans le monde, il n'y a rien qui pourra arrêter l'Église, même pas la mort, même pas le séjour des morts pourra retenir l'Église si l'Église a les yeux ouverts sur qui est Christ et qui a une compréhension, une conception claire de qui est Jésus-Christ. Mais d'ici là, on a du travail à faire. Et que le Seigneur nous aide à vraiment le découvrir plus. Et on peut le demander. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important avec les circonstances qu'on vit, l'incertitude qui amène une obscurité, amène un brouillard. Beaucoup de gens aujourd'hui sont confus, sont dans le brouillard. Mais la lumière de Christ est celle qui fait toute la différence. Alors voilà pour le résumé. Désolé si ça a été un petit peu plus long, mais des fois c'est important de revenir pour bien partir également avec la suite. Donc nous allons maintenant dans la session d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on avait dit déjà il y a quelques semaines concernant le chapitre 8, avec tout ce que nous avons vu dans le chapitre 8, il y a un élément central qui est dans le fond une réalité spirituelle de l'être humain. Et c'est que l'être humain spirituellement est aveugle. Et que cet aveuglement, on le retrouve partout dans le chapitre. Partout, il y a la foule qui est là, qui suit Jésus. Il y a les pharisiens, les scribes qui demandent un signe. Il y a les disciples qui, Jésus leur parle de quelque chose, du levain des pharisiens, eux autres, ils pensent que c'est le morceau de pain qu'ils ont entre les mains. Ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire. Ils ne sont pas capables de voir ce que Jésus est en train de leur expliquer. On a la guérison de l'aveugle à Bethsaïda. Et la révélation de Jésus qui est donnée par Pierre, où juste à ce moment-là, Dieu lui ouvre les yeux par rapport à Jésus. Donc, l'aveuglement, c'est ce point central dans le chapitre 8. Et ça démontre l'important pour nous, et je reviens là-dessus, l'important pour nous de prier comme Paul a prié. Seigneur, ouvre les yeux, illumine les yeux du cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui est attachée à leur appel. Et on va lire plus tard, on va faire la lecture dans Éphésiens. Mais c'est important parce que c'est pas parce que ça fait des années qu'on est à l'Église. C'est pas parce que ça fait des années qu'on marche avec le Seigneur qu'on a nécessairement la bonne vision, qu'on a une vue adéquate et bonne sur Dieu, sur le Seigneur et sur la vie dans son ensemble, sur l'Église. Toute l'importance, bien-aimé, de prier, de venir à la parole. Et Seigneur, ouvre mes yeux. J'ai besoin que tu ouvres mes yeux. C'est un besoin qui est critique, je pense, pour l'Église aujourd'hui. Donc, si on retourne, dans le fond, qu'est-ce qu'on avait dit? Bon, la foule nombreuse, la Bible dit qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Cette foule qui représente le monde, qui représente le monde qui est dans les ténèbres, et qui est aveugle, dans le fond. Le monde qui vit dans les ténèbres, dans l'obscurité, qui ne sont pas dans le Seigneur, qui sont dans le royaume des ténèbres. On a vu les pharisiens dont la Bible dit, Jésus dit, ce sont des aveugles qui conduisent ou qui dirigent d'autres aveugles. Ils sont aveugles pourquoi? Parce que ce sont des gens religieux qui donnent plus d'importance à leur tradition et à leur religion. Ils sont plus attachés à leur tradition qu'à Dieu. Ils sont plus rattachés à la religion qu'à la parole de Dieu. Et donc, ils sont aveuglés par leur rattachement à la tradition et à la religion. Et on trouve les disciples où est-ce que, comme je disais, ils étaient à la barque et justement Jésus leur enseignait des choses et eux, ils ne comprenaient rien. Jésus leur enseignait des vérités fondamentales sur le royaume de Dieu. Et les disciples pensaient que Jésus leur parlait du morceau de pain
du seul morceau de pain qu'ils avaient réussi à monter dans la barque avec eux, et que tous se regardaient les yeux en se disant, oh boy, c'est un long voyage, puis on va devoir partager ce bout de pain ensemble, alors qu'il y avait des paniers qui sont restés de l'autre côté. N'oublions pas qu'il y avait eu la seconde multiplication des pains. Donc, OK. Et là, Jésus leur dit, ben, n'êtes-vous pas aveugles? Et il leur parle du cœur. N'avez-vous pas le cœur endurci? Et là, ça doit nous parler à nous, parce que le pécheur est aveuglé parce qu'il est dans l'obscurité. Il est dans l'emprise du péché. Le religieux, et le religieux même qui vient à l'église, est aveuglé parce que pour lui, la tradition, la religion, est plus importante que l'essence même de la parole. Et le croyant, celui qui est vraiment disciple, est aussi aveugle. Et sa condition d'aveuglement est créée à cause de la dureté de son cœur. Il y a un lien entre la dureté du cœur et la capacité de voir et de concevoir les choses de Dieu, donc d'avoir une vision qu'on pourrait dire spirituelle des choses. Parce que le cœur des disciples était endurci, bien des fois ils n'ont pas compris les enseignements de Jésus. Et donc, bien des fois, des choses que Dieu dit, que Dieu fait, qui passent à 10 000 mètres au-dessus de notre tête, ces situations-là arrivent parce que notre cœur est encore endurci et il y a un travail, un processus qui doit être fait. Donc, nous sommes tous aveugles à différents niveaux, à différents degrés, mais nous avons tous besoin de Jésus-Christ pour, dans le fond, avoir la vue et comprendre les choses de la vie d'une façon différente. Donc, verset 31, on remarque une chose. Remarquez une autre chose aussi. La semaine dernière, on a vu qu'il y avait la révélation sur qui est Christ. Et c'est Pierre qui dit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tout de suite après, Jésus commence à leur enseigner, ou à leur annoncer plutôt, qu'ils devaient souffrir, qu'ils devaient être rejetés, qu'ils devaient mourir, qu'ils devaient être ressuscités. Qu'est-ce qui est en train d'arriver là? Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Ils ont eu une partie de la vision de Christ qui leur a été donnée. Et là, Jésus commence à préciser cette vision-là. Il commence à l'amplifier. À l'amplifier également. Et c'est ce qu'on lit dans le verset 31, lorsqu'il dit, dans le fond, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de faire après la révélation de l'identité, de qui il est? Il commence à préciser la vision. Il commence à l'amplifier également. Il commence à donner plus de révélations sur lui-même. Plus de révélations sur sa personne, sur son destin, sur son mandat. Et ces révélations-là, ces vérités qui sont annoncées par Jésus, sont vraiment fondamentale pour la foi et le salut de l'humanité. Parce que Jésus est en train de dire pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour souffrir, mourir, ressusciter, pour le pardon de nos péchés et pour nous donner la vie éternelle. Jésus est en train de révéler ces choses-là, donc d'ouvrir les yeux de ses disciples sur cet aspect-là qui peut-être jusqu'à maintenant était un petit peu flou, c'était pas clair. Mais à ce moment-là, précisément, les yeux de ses disciples commençaient à être ouverts sur la raison de Jésus. Et ce qu'on doit comprendre ici, c'est que ce que Dieu dit à travers sa parole, Ben, c'est toujours d'importance capitale. À chaque fois que Dieu nous parle à travers sa parole, c'est toujours important. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous ouvrir les yeux sur quelque chose. Présentement, je m'adresse à vous, je vous parle de la parole de Dieu. Dieu est en train d'ouvrir vos yeux. Demain matin, lorsque vous allez écouter la bénédiction matinale, Dieu va ouvrir vos yeux encore. À chaque fois que vous allez dans la parole, tout ce que Dieu dit est d'importance capitale, parce qu'elle est là pour, comme rôle fondamental dans notre foi, dans notre salut, dans notre perfectionnement, dans notre vie, dans notre joie, dans notre paix, dans notre vie de service également. Donc, c'est important de se rappeler de ça, d'y penser, d'avoir cette image-là. À chaque fois que je lis la Bible, à chaque fois que j'écoute une prédication, que je suis attentif à son message, eh bien, c'est Dieu qui est en train d'ouvrir la vue, de préciser la vision, d'amplifier la vision. Et donc, si je ne suis pas attentif, si mon cœur ne reçoit pas la parole, ça reste sans effet. Je continue à rester aveugle. L'opportunité qui s'était présentée à ce moment-là pour que mes yeux soient ouverts sur une réalité importante pour ma vie, fondamentale pour ma vie, pour mon avenir, je rate cette occasion-là. Je reste dans mon état d'aveugle. Puis je continue à commettre les mêmes erreurs, à trébucher aux mêmes endroits et à prendre les mêmes décisions. Et après ça, on se dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je ne change pas? Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie n'a pas changé? Ben, c'est parce que ton cœur n'a pas changé. Parce que ton attitude vis-à-vis la Bible, vis-à-vis la parole de Dieu n'a pas changé. Ta position par rapport à Dieu, elle n'a pas changé non plus. Tout ce que Dieu te dit ne porte pas de fruits. Parce que ton cœur est fermé. Et chaque occasion qu'on a de venir à la parole de Dieu, c'est exactement la même chose que Jésus faisait à cet aveugle à Bethsaïda, où est-ce qu'il touche les yeux et qui clarifie la vision davantage. Une chose qui est importante aussi à retenir par rapport à la vision qui se précise, c'est qu'elle est tellement importante. C'est pour ça que c'est tellement important l'étude de la parole et la prédication, la vie, la présence de la Bible, la parole de Dieu dans nos vies. La deuxième, c'est parce que, on sait, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour notre foi, pour notre croyance, pour notre conviction, on a besoin d'être nourri par la parole de Dieu. Et Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour notre plaisir. Dieu veut pas te révéler des choses sur lui, sur l'Église, sur le monde. Dieu veut pas te révéler des choses pour que tu dises waouh. Non, Dieu est pas dans le waouh. Dieu est pas intéressé à qu'il y ait un effet waouh. Bien des conférences, bien des gens font des événements, attirent bien des gens. Puis c'est, on va lancer le plus de révélations possible, mais l'effet derrière tout ça, c'est quoi? Des gens disent waouh, les gens sont. Mais qu'est-ce qui reste fondamentalement dans la vie de ces gens-là? Est-ce que leurs yeux ont été ouverts? Est-ce qu'il y a eu plus d'obéissance à la parole de Dieu suite à cela? Est-ce qu'il y a eu plus de foi, plus de conviction? Est-ce que la foi, elle a été édifiée? Ou tout simplement, ça a été une rencontre émotionnelle, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de waouh, mais il n'y a pas eu d'obéissance? Dieu ouvre pas les yeux des gens pour avoir un effet wow. Dieu est pas là. Dieu s'y ouvre les yeux. C'est parce qu'il s'attend à ce que la foi grandisse. Puis il s'attend à ce qu'il y ait de l'obéissance. Il s'attend à ce qu'on se rallie à lui. Il s'attend à ce qu'on comprenne ce que lui est en train de faire et qu'on participe dans son œuvre. À qu'on prenne part. Puis que tout ce qu'on fait, on le fait avec intelligence. On ne le fait pas sur le coup de l'émotion. Parce qu'on sent que l'esprit nous amène ici ou que l'esprit nous amène là-bas. Non, c'est parce qu'on a une vision claire. On a une vision éclaircie de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Où est-ce que Dieu veut que j'aille? Et de quelle façon il veut que je m'implique? De quelle façon il veut que je contribue au bien-être de mon prochain et de l'humanité? Ça, c'est le premier point. L'autre élément, c'est que ce que Dieu dit prend de l'importance avec le temps. Ici, Jésus annonce qu'il va souffrir. Il fait juste annoncer. Il n'est pas en train de vivre la souffrance en lui-même. Il n'est pas mort, il n'est pas encore ressuscité. Mais plus le temps arrive où est-ce que la parole s'accomplit, plus précieuse et plus importante cette parole-là devient. Ce qui veut dire, c'est que ce que Jésus t'a dit ou ce que Dieu t'a parlé dimanche passé va peut-être prendre l'importance et va peut-être prendre toute son importance dans un an, dans un mois, dans une semaine. Parce que l'accomplissement de cette parole l'achèvement du travail de cette parole dans notre vie, elle n'est pas complétée. La Bible dit que Dieu envoie sa parole et qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Donc, plus il y a cet effet-là de la parole qui se fait dans notre vie, plus cette parole-là devient importante. Donc, plus nous gardons, plus nous méditons la parole, plus elle va avoir d'effet dans notre vie. Mais si on écoute une prédication, on écoute un message ou on lit un verset de la Bible, puis pff, on s'en va faire autre chose après, on l'oublie, encore là, notre condition d'aveugle ne change pas. Et on rate des rendez-vous. On rate des bénédictions avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui nous a été donné. On n'est pas capable de concevoir, de comprendre qu'est-ce qui nous est transmis. On ne comprend pas et on ne saisit pas pleinement tout ce qui nous est transmis, tout ce qui nous est donné de la part de Dieu, juste avec sa parole. On ne comprend pas et on ne valorise pas tout ce qui nous est transmis à chaque prédication, à chaque enseignement, à chaque méditation, à chaque fois que toi et moi on lit la Bible, on ne saisit pas toute la portée, toute la profondeur, toute la richesse, toute la puissance, toute la vie qui nous est transmise. Pourquoi? Parce qu'on est aveugle. Parce qu'on a une vision très, trop restreinte. Il y en a besoin que Dieu travaille dans notre cœur pour qu'on ait une vision encore plus claire. Et c'est là l'important de ne pas oublier la parole, de ne pas oublier ce qu'on entend. Il ne faut pas être des oublieux. Il ne faut pas être une audience qui clappe des mains, qui danse, qui saute, puis qui s'éclate à chaque fois qu'il y a une révélation, mais après ça, on quitte l'endroit et on a carrément oublié de quoi était la parole. On nous demande le dimanche suivant quel était le message de dimanche de la semaine passée. Pff, on s'en souvient pas. Pourtant, Dieu était en train de nous ouvrir les yeux à ce moment-là. Dieu est en train de faire un travail. Dieu a envoyé cette parole pour faire un travail dans nos cœurs, dans nos vies. Comment ça se fait qu'on l'a oublié? On est peut-être un peu comme cette personne-là, cet individu dont parle Jacques au chapitre 1, versets 23 et 24. Quand il dit, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va. » Et oublie aussitôt quel il était. Et là, on peut dire « ouch », parce que nous avons tous été dans cette situation-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne plus rester dans cette situation-là. De comprendre qu'à chaque fois que Dieu nous parle, c'est Dieu qui veut nous ouvrir les yeux sur quelque chose d'important pour ta vie. Sur quelque chose d'important pour ta vie qui va peut-être pas prendre toute son importance et son sens à ce moment-là. Mais peut-être dans une semaine. Peut-être dans un mois. Peut-être dans un an. Va prendre toute son importance. Dieu est bon. Dieu est vraiment gentil avec nous. Il est vraiment patient. Donc, voilà la vision qui se précise, là. Jésus, suite à la révélation qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant, voilà qu'il annonce d'autres vérités le concernant. Et donc, la vision qui s'amplifie, qui se précise, ben, ça devient la vision qui choque. Et c'est ce qu'on voit par la suite. Pourquoi c'est une vision qui choque? Parce que, comme on l'avait vu la semaine dernière, Jésus donne une recommandation à ses disciples. Une fois qu'il y a eu cette révélation-là de qui est Christ, Jésus leur dit de rien dire, de garder ça pour eux. Puis ça devrait poser des questions parce que comment ça se fait? Je veux dire, si lui, c'est le Fils du Dieu vivant, si lui, c'est le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, ben, faudrait que ce soit publié, annoncé partout dans le monde. Pourquoi est-ce que lui, Jésus, dit, non, 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 c'est dites rien. Chut. Bien, principalement parce que la vision que les disciples avaient du Messie n'était pas la bonne. Et encore une fois, Jésus avait besoin d'ouvrir les yeux de ses disciples et d'enlever cette vision juive ou judaïque du Messie pour apporter la pensée de Dieu dans leur cœur. Quelle était la vision judaïque ou juive du Messie? Ben, les Juifs attendaient, et les Juifs attendent toujours la venue d'un Messie. Et pour eux, ce Messie, ça va être un leader politique, militaire, qui, bon, à l'époque de l'Empire romain, était un leader qui allait se lever et qui allait renverser, dans le fond, tous les ennemis. Qui allait non seulement renverser l'Empire, mais qui allait renverser tous les ennemis. Donc, qui allait exercer une vengeance sur tous les peuples qui avaient fait du mal à Israël, qui allait leur faire payer, là, et qui allait rétablir le royaume d'Israël sur son territoire. Et que Israël allait briller de tout son éclat et rayonner partout dans le monde avec la montée ou l'arrivée de ce Messie-là. C'était ça la conception des, des disciples qui étaient juifs. Pour eux, le Messie devait faire ça. Et là, Jésus est en train de leur dire, ouais, il faut que je souffre beaucoup, il faut que je vive le rejet. En passant, on va me tuer, mais inquiétez-vous pas, je vais ressusciter dans 3 jours. Là, eux autres, leur vision du Messie vient carrément d'être jeté à terre. Parce que c'était vraiment pas ça, ce qu'on leur avait enseigné. Ce qu'ils ont reçu par leur éducation, par la culture, par tout ce qui leur a été transmis depuis qu'ils étaient petits. C'était pas ça la vision qu'ils avaient. Ils avaient la vision de ce grand héros qui allait remettre Israël à sa place et remettre les ennemis d'Israël à leur place aussi. Donc, deux visions se rencontrent là. Deux visions s'opposent. Et ce qu'on doit comprendre ici, c'est que on a tous une structure de pensée. Nous avons tous un raisonnement. Un raisonnement qui a été monté, qui a été structuré par notre environnement, par la culture. Nous avons une façon de penser qui est liée à une culture, qu'elle soit européenne, africaine, sud-américaine, asiatique. Il y a des choses qui viennent de la culture, il y a des choses qui viennent du monde, de notre environnement, il y a des choses qui viennent du système, il y a des choses qui viennent de la culture populaire, cette culture qu'on retrouve partout dans le fond. Et cette structure-là de pensée, dans le fond, elle n'est pas capable de concevoir les choses de Dieu. Elle n'est pas capable. Donc, ce sont deux visions de la vie, deux visions de l'amour, deux visions de la mort, deux visions de l'être humain, deux visions de Dieu, de l'univers, de l'espace, qui s'opposent, qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est deux pensées qui s'opposent, qui sont contraires. Et voilà ce qui choque, parce que Jésus, bien des fois, choque. Et la parole de Dieu, bien des fois, nous choque aussi, nous secoue. Pourquoi? Parce que elle ne rentre pas dans notre système de pensée. Il y a des choses qui se retrouvent dans la Bible que nous, on dit, ben voyons non, on est en 2020, là. Puis personne pense comme ça. Ben Dieu pense comme ça. Dieu pense comme ça. Alors, les idées s'entrechoquent. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a ce, je dirais pas ce conflit, mais on a cette situation-là où est-ce que ce qu'on croit recevoir de la part de Dieu, on a de la misère à l'accepter. On a de la misère à le comprendre et en plus, on a de la misère à l'accepter. Donc tous, sans aucun doute, étaient dans l'étonnement face aux révélations que Jésus était en train de leur donner par rapport à lui-même. Et du groupe des disciples, bien, il y en a un qui a levé la, qui s'est levé, qui a pris la parole. Et c'est Pierre. Et au verset 32, il est écrit, « Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. » OK. Donc, Pierre prend Jésus. Il s'en va à part. Puis Pierre commence à le chicaner. Commence à reprendre Jésus. Pierre était dans le fond cette personne-là qui, il ne l'a pas fait de mauvaise foi. Il ne l'a pas fait avec un mauvais cœur. Pierre est cet homme qui est rempli de bonne volonté, là. Puis il dit, mais non, voyons, tu ne vas pas mourir. C'est impossible. Tu peux pas vivre ça. Ça cadre pas avec l'idée du Messie. Voyons, Jésus, t'as pas fait tous ces miracles. Tu vois tous les gens qui t'admirent, vois toute la foule qui te suit partout où tu vas. Puis toi, tu es en train de nous dire que là, il va falloir que tu meures, puis que tu vives le rejet. Tout le monde t'aime, bon, à part les pharisiens, mais le reste t'aime, ils sont là derrière toi. Voyons, Jésus, pense un peu. Pierre représente cet homme qui est rempli de bonne volonté, mais qui n'est pas rempli de la pensée de Dieu. Qui n'est pas rempli de Dieu. Il prend son courage, il prend une position face à ce que Jésus est en train de lui dire. Fait que, aujourd'hui, quelqu'un qui prend son courage, qui se lève, qui prend position, ben on dit, ben c'est un leader, là. On reconnaîtrait, on soulignerait le caractère et l'attitude de cette personne-là en disant que c'est un leader naturel. En disant que c'est bien ce que cette personne-là est en train de faire. En approuvant, dans le fond, ce que cette personne-là et l'approche que cette personne-là est en train de prendre. Et le terme reprendre en grec, c'est epitimaio, epitimao, qui veut dire recommander sévèrement. Donc, Pierre n'est pas allé en douceur, en essayant de faire changer Jésus de pensée. Et qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que la pensée de Pierre, la bonne pensée humaine de Pierre, c'était d'éviter la croix. Il dit à Jésus, ben non, tu ne vas pas mourir. Alors que la pensée divine, qui était révélé à travers Jésus-Christ, c'était d'aller à la croix. Et qu'est-ce que ça doit nous dire à nous? C'est que une pensée peut être remplie de vertu, peut être faite avec la meilleure volonté de tout l'univers. Ça peut être la pensée la plus positive. Beaucoup de monde sont dans la pensée positive. La pensée la plus positive et être opposée catégoriquement à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, au plan de Dieu. Je répète, une pensée, même si c'est la plus positive, la plus noble, la plus pleine de bonne volonté, eh bien, elle peut s'opposer catégoriquement au plan de Dieu. Et ça, ça nous amène à un défi, à un gros défi. Et au verset 33, nous lisons, « Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Le défi, c'est de prendre une décision, c'est de déterminer quel genre d'église, quel genre de chrétien, de croyant, de serviteur, d'enfant de Dieu, nous allons être en 2021. Allons-nous être ou serons-nous une église et allons-nous servir avec une pensée humaine remplie de bonne volonté? Vous savez que c'est possible. C'est possible. Il y a des gens qui servent et qu'ils ont la meilleure des volontés. Ou allons-nous être une église qui va servir avec une vision claire du plan de Dieu? Avec une vision claire du plan de Dieu pour 2020-2021. Avec une vision claire du plan de Dieu pour Montréal, pour le Québec, pour les champs missionnaires. Quel genre d'église on va être? Quel genre de chrétien tu vas être? Quel genre de serviteur? Est-ce que tu vas aller avec ta pensée? Parce que tu trouves qu'il n'y a aucune malice dans ta pensée. Probablement que tu es la personne avec la pensée la plus positive qui existe sur terre. Tu vas toujours te retrouver en opposition avec le plan de Dieu. Parce que la pensée humaine ne conçoit pas les choses de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui l'a dit. Fait que vous avez des problèmes avec ça, vous parlez à Jésus, vous ne parlez pas à moi. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y a, ce sont deux pôles séparés, deux chemins séparés, et la pensée humaine, la pensée de Dieu, ne vont pas au même résultat. Même si en apparence, une pensée positive, pleine de vertu, pleine de belles paroles, de belles choses. Même si on pense qu'elle va vers Dieu à un moment donné, ça prend un autre chemin. Et Ésaïe est très clair là-dessus. Chapitre 55, versets 8 et 9, nous lisons « car mes pensées, c'est Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. » Ah, c'est clair. Là. C'est... Il n'y a rien à rajouter, dit l'Éternel. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est très clair. La pensée humaine et la pensée de Dieu ne vont pas ensemble. Il n'y a pas de mariage qui peut exister entre la pensée humaine et la pensée divine. Donc, arrêtons d'essayer d'accommoder les choses. Arrêtons d'essayer de faire l'œuvre de Dieu avec nos pensées. Arrêtons d'essayer de vivre l'Église avec notre raisonnement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ici, je reviens à l'importance que lorsque Dieu nous parle, à travers sa parole, c'est pour nous faire voir ce que Isaïe est en train de nous dire. C'est pour nous faire voir que, hey, t'es loin de la traque. Ou comme une expression, t'es dans le champ gauche. Jésus nous parle pour nous attirer à sa voix, à sa pensée, pour nous faire voir que dans notre pensée, dans notre raisonnement, on se dirige vers l'échec. On va frapper un mur. Mais avec sa volonté et son plan, on va continuer de l'avant. Et on va avancer. À chaque fois que Dieu nous parle, c'est un peu ça qu'il fait. Quand il nous ouvre les yeux, puis il nous dit, « Faut que tu viennes sur mon chemin. Adopte ma pensée, pas ton raisonnement, mon raisonnement. Parce que je suis Dieu après tout. Je sais plus que toi. Je connais tout. Et je veux ton bien. Et je t'aime. Et je veux ton bien. » Donc, important de considérer et combien de fois? Je ne sais pas, quelque chose qui est venu à chaque fois. C'est pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais j'ai déjà eu des conversations avec des chrétiens qui me disent, me posent la question, c'est qui va prêcher aujourd'hui? Puis là, je leur dis un tel, puis là, la face change. Puis là, le visage change comme, ah non, tu sais, ça va être comme, ah, c'est un tel. J'ai déjà entendu des commentaires, un tel, je l'aime pas comment il prêche. OK, donc tu te fermes à la parole juste parce que tu refuses d'accepter la parole de Dieu parce que tu n'aimes pas le style d'un prédicateur ou tu préfères un prédicateur plus qu'un autre. Ta réception face au message va changer, va différer. C'est quoi cette affaire-là? Où c'est marqué dans la Bible? Mais vous comprenez que nous-mêmes, on s'auto-détruit. Nous-mêmes, on se fait du mal. Parce que Dieu est là avec sa parole. Et là, nous, on commence à mettre des « ah, parce que c'est un tel ou parce que c'est un autre. » Et là, on nuit au travail que Dieu veut faire dans notre propre vie, pour notre propre bien. C'est dommage. Mais que Seigneur nous ouvre les yeux, parce qu'on en a besoin. Et ici aussi, ce qui fait mal. Et Jésus le dit, il ne le dit pas littéralement, mais dans le fond, il est en train de, avec l'explication qu'on est en train d'apporter, il est en train de dire une chose. C'est que servir Dieu avec une pensée humaine, c'est comme servir le diable. Servir Dieu, ou vouloir servir Dieu, mais avec un raisonnement humain, c'est être comme le diable. C'est comme faire l'œuvre du diable, pas faire l'œuvre de Dieu. Ça aussi, ça... C'est rough. C'est dur. Mais c'est clair. Et du moins, ça devrait être clair pour nous. Dieu n'est pas intéressé à l'effet « wow ». Dieu, s'il te parle, c'est parce qu'il veut ouvrir tes yeux sur des fondements de ta vie, des fondements qui vont être essentiels pour ta vie. Et Dieu recherche la foi et l'obéissance à travers elle. Mais Dieu n'est pas intéressé à ton raisonnement ni le mien. Dieu veut qu'on adhère à son raisonnement, à lui, à sa pensée, à lui, qu'on ait la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que vive l'Église. Et vous savez, j'ai eu des conversations avec des gens qui ont presque naufragé dans la foi, qui se sont lancés dans le ministère alors que ce n'était pas leur appel, qui se sont lancés dans un service pour plusieurs raisons, mais pas pour les bonnes raisons, et qui se sont trouvés dans une très mauvaise posture parce que tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec leur raisonnement. Et ils se sont fait beaucoup de mal ils ont fait beaucoup de mal aux autres aussi. Et ces ministères-là, certains d'entre eux aujourd'hui, c'était un échec. Parce qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec nos pensées. Qu'on ait des diplômes universitaires, qu'on ait un doctorat. Dieu, c'est pas ça qu'il regarde. Dieu veut le cœur. Dieu veut le cœur. Dieu veut quelqu'un qui soit consacré, qui dise oui, Seigneur. Et oui, Seigneur, je vais laisser que tu m'ouvres les yeux. Je vais accepter de voir comment toi tu vois les choses. Et sur mon raisonnement et mon opinion, c'est pour ça que je suis serviteur et que toi tu es le maître. On n'est pas partenaire. On est serviteur et il y a un seul maître, un seul Seigneur. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir ou commencer à concevoir les choses de Dieu? On va en parler un petit peu avant de terminer. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, on retrouve quelques éléments là qui, je pense, sont essentiels pour nous de mettre en pratique, de commencer à y méditer, à regarder, prier là-dessus. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il est dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Qu'est-ce qui est important pour commencer à concevoir les choses de Dieu? Premièrement, c'est la consécration. Il dit offrez-vous, offrez vos corps. Offrez-vous. Consacre-toi à Dieu. Offre ta vie à Dieu. Que ta vie soit comme une offrande à Dieu. Donc, on parle de se consacrer, de se dédier, de s'abandonner, de faire de Dieu notre but, notre sens, notre source de la vie. Il dit également de ne pas vivre, de ne pas se conformer, pardon, au siècle présent. C'est-à-dire ne pas vivre comme le monde vit. Ne pas vivre dans les valeurs que le monde prône, mais plutôt de vivre dans les valeurs de la Bible, les valeurs du royaume de Dieu. Donc, ne pas se conformer. Si le monde se conforme à des choses aujourd'hui, ben, nous, on doit avoir une ligne tracée. Et à un moment donné, on ne peut plus se conformer. Parce que ça va à l'encontre de la pensée de Dieu. Et si on traverse la ligne, on va tomber dans une noirceur, on va retourner dans un aveuglement qui va nous faire du mal. Et la troisième, c'est de vivre une transformation du cœur, transformation intérieure, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'être intérieur spirituel. On est un être spirituel, on n'est pas juste de la chair. Il y a une âme, il y a un esprit à l'intérieur. Que cette âme, cet esprit-là a besoin d'être transformé, d'être touché par Dieu, afin de discerner c'est quoi la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Donc j'ai besoin de me consacrer à Dieu. J'ai besoin de m'éloigner de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et j'ai besoin de vivre une transformation intérieure qui va me permettre de commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Ce qui est bon, qui est agréable et parfait. Si je ne suis pas capable, un, de voir la volonté de Dieu, j'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux. Si je ne suis pas capable de dire que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est pure, elle est agréable, elle est parfaite, j'ai besoin que Dieu m'ouvre les yeux et que Dieu change mon cœur. Voilà où on en est. Et voilà ce qui est important dans nos vies d'être. De se réaliser, de s'accomplir. On va lire maintenant dans Éphésiens, ou plutôt, non, qu'est-ce qu'on dit aussi ici, c'est que quand on parle de consécration, quand on parle de prendre une décision, par rapport au monde et de vivre une transformation intérieure, on est en train de dire que c'est un engagement, là. On s'engage pour Jésus. On s'engage pour Dieu, que c'est un engagement qui provient du cœur. C'est pas juste quelque chose qui est de la bouche. C'est pas quelque chose qui est intellectuel. C'est du plus profond du cœur qu'on prend cet engagement-là de se consacrer à Dieu, de vivre une vie séparée des choses du monde qui déplaisent à Dieu et de vivre une transformation intérieure. Et quand on fait ça, ça brise également la dureté, l'endurcissement qu'il y a dans notre cœur. Parce qu'on permet à Dieu de travailler dans notre vie. On permet à Dieu d'aller explorer les zones obscures de notre être, les zones cachées, et de nous guérir, de guérir des blessures, de guérir, de nous délivrer de mensonges qui nous tiennent prisonniers depuis des années. C'est important la consécration. C'est important de prendre cette décision-là avec notre cœur, parce que c'est notre cœur qui en bénéficie. Et je vous ai déjà dit, la vision et la dureté du cœur vont ensemble. Donc, plus mon cœur va être transformé, plus je vais pouvoir concevoir et voir les choses de Dieu dans ma vie et autour de moi. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 22, nous lisons rapidement, on va bientôt finir. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Est-ce que j'ai besoin que Jésus illumine les yeux de mon cœur? Absolument. Absolument. Pour que je puisse voir tout ça. Pas que je puisse voir tout ça le dimanche matin, que je puisse voir tout ça dans mon quotidien, dans ma vie. Voir l'espérance, voir la richesse, voir la puissance, l'autorité de Christ dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu ouvres mes yeux. Tu illumines les yeux de mon cœur pour que je voie tout ça. Et remarquez une chose, c'est que au verset 16, il dit « Je ne cesse de rendre grâce, faisant mention de vous dans mes prières. » Paul rendait continuellement grâce à Dieu. Paul avait une attitude de gratitude, avait un cœur reconnaissant envers Dieu à chaque instant. À chaque jour, il rendait grâce à Dieu continuellement. Et ça, c'est un point qui est important. Pour commencer à concevoir les choses de Dieu, il faut avoir un cœur reconnaissant. Et un cœur qui est reconnaissant, c'est un cœur qui a été brisé ou que la dureté de son cœur a été enlevée. Et qui fait constamment mention dans les prières, c'est-à-dire qu'il y a une communion avec Dieu dans la prière. Il y a une vie de prière qui garde cette communion-là avec Dieu. Donc la prière est importante et l'action de grâce, c'est d'avoir un cœur qui est reconnaissant envers Dieu. Et remarquez une chose, ça a été donné dans cet ordre-là parce que l'ordre est important. La consécration du cœur vient en premier. la décision, l'engagement du cœur est premier. Pas la prière. Avoir un cœur reconnaissant, ce n'est pas en cliquant des doigts. On est plutôt de nature égoïste. On est plutôt de nature à rechercher notre propre intérêt, même dans les choses de Dieu. Et donc, pour avoir un cœur qui est reconnaissant, pour avoir une compréhension de l'importance de la communion avec Dieu, c'est parce qu'à la base, nous sommes engagés avec Christ. Parce qu'à la base, on a décidé qu'il y a des choses que nous n'allons pas participer. Et parce qu'à la base, on a vécu une transformation dans notre être intérieur. On n'est pas reconnaissant du jour au lendemain. Il y a une transformation qui s'opère dans notre vie. D'où l'importance d'avoir une consécration du cœur en premier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Beaucoup de gens prient sans être consacrés. Et ça, c'est une autre erreur qu'on commet. On prie, on essaie d'obtenir des choses par la prière, mais le cœur n'est pas là où il devrait être. On n'a pas pris un engagement avec Jésus, on n'est pas consacré avec Jésus, donc notre prière sera sans effet. Tu veux avoir une vie de prière qui a un impact, assure-toi d'être consacré, assure-toi d'être engagé avec Jésus, assure-toi de ne pas te conformer avec le siècle présent. Et là, tu vas commencer à concevoir des choses. Tu vas voir que quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vas commencer à voir des choses, à discerner des choses. Ça n'arrivera pas avant. Ça n'arrivera pas juste si tu commences à prier. Il y a des gens qui ont des fois, on donne des mauvais conseils où on n'évalue pas vraiment la situation de la personne et on dit, il faut que tu pries. Et des fois, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que la personne doit prier, c'est que la personne doit se consacrer. Et on amène beaucoup la solution de la prière. Bien des fois, tu parles avec Dieu, tu cherches Dieu, mais où est la consécration? Est-ce que cette personne-là a pris un engagement vers Dieu? Est-ce que cette personne-là a pris un engagement vis-à-vis le monde? C'est peut-être là où on devrait se poser les questions, les vraies questions. Et peut-être ça va régler plein de problèmes dans notre vie. Ça va enlever plein de barrières. Et lorsqu'on va recevoir la parole de Dieu, Dieu va pouvoir nous enlever ce qui obstrue notre vision, va pouvoir nous ouvrir les yeux et on va pouvoir contempler davantage et notre vie va être changée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça, c'est un bon plan. Je pense que c'est un bon plan. Alors, il est temps de commencer à concevoir les choses de Dieu. D'arrêter de faire l'œuvre, d'arrêter de servir, d'arrêter de vivre l'Église avec notre raisonnement, notre pensée humaine. Parce que c'est l'équivalent de faire le travail du diable. Et commençons à considérer ces choses-là de façon peut-être plus sérieuse dans la nouvelle année ou en cette fin d'année. Donc, en résumé, le point central du chapitre, on revient au fait que c'est l'aveuglement. Tous sont aveugles à différents degrés. Mais on voit ici que la vision s'intensifie, ou plutôt que la vision se précise, elle prend de l'ampleur parce que Jésus révèle d'autres choses, d'autres vérités par rapport à lui. Et que ça, au lieu de trouver un terrain favorable, on réalise que c'est une vision qui ne cadre pas avec la vision des disciples, et il y en a un qui se lève pour dire: ben non, Seigneur, c'est pas ça, là. Il ne faut pas que tu meurs. Tu ne vas pas mourir, voyons. Et par là, on comprend que la structure de la pensée humaine n'est pas capable de voir, de concevoir, ni de comprendre le plan de Dieu, et qu'une pensée peut être remplie de vertu, de bonne volonté, et s'opposer catégoriquement au plan de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un bon raisonnement que tu es dans le plan de Dieu. Que tu conçois ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu veut faire. Et que le défi aujourd'hui, c'est d'être l'Église et de servir avec une bonne pensée humaine, avec une pensée positive. Il y a des gens qui prêchent la pensée positive, ils ne prêchent pas l'Évangile. Parce qu'en apparence, il y a bien des choses qui peuvent se ressembler, mais fondamentalement, elles sont totalement opposées. Donc, on peut être une église qui va servir avec la pensée positive ou avec une vision claire, claire et amplifiée du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Et pour commencer à concevoir les choses de Dieu, eh bien, ça demande une consécration. Pourquoi Dieu va révéler des choses à quelqu'un qui n'est pas consacré? Pourquoi est-ce que Dieu va révéler à quelque chose à quelqu'un qui n'est pas dédié? Si on prend un sport, n'importe quel sport professionnel, le soccer par exemple, les gens qui jouent dans une équipe, c'est parce qu'ils ont signé un contrat. Personne, on ne va pas chercher quelqu'un dans la galerie et dire, OK, toi, tu vas jouer cette semaine. Non. Il y a une équipe qui est composée de joueurs. Ces joueurs-là sont à contrat. Ils se sont engagés pour jouer avec cette équipe. Même chose pour nous. On veut jouer dans l'équipe du Seigneur. On veut comprendre, on veut faire partie du plan de Dieu. On veut que Dieu nous révèle les tactiques, c'est quoi le plan de jeu pour gagner. Mais on n'a pas signé de contrat avec l'équipe. On n'a pas signé de contrat avec l'équipe. Est-ce que c'est logique? Non, ce n'est pas logique. Donc, pour commencer à concevoir les choses de Dieu, il faut une consécration. Il faut un engagement envers Dieu, envers lui, envers son royaume. Et ça va briser cet endurcissement de notre cœur. Il y a un travail qui va s'initier là, de transformation de notre cœur. Et ça va nous amener à être reconnaissants, à rendre grâce à Dieu. Et quand on rend grâce à Dieu, c'est qu'on est content, qu'on approuve ce qu'il fait. Donc c'est sûr que Dieu va nous ouvrir davantage la vue, va nous permettre de voir encore plus. Et à travers la prière aussi. La prière va, à ce moment-là, va prendre tout son sens. La prière va avoir son effet. Comme on dit, la prière du juste. Le juste, c'est quelqu'un qui est consacré, qui est engagé. C'est pas n'importe qui. Donc c'est là où ce que la prière prend tout son sens et elle permet d'ouvrir les yeux. Donc oui, Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux. On a tellement besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. On va prier. Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour cette journée, pour cet enseignement. Seigneur, des sujets, Seigneur, qui parfois, Seigneur, sont pas évidents, Seigneur, sont pas faciles à traiter, mais qui sont importants et sont, Seigneur, d'un ordre fondamental. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles et aujourd'hui, tu nous as ouvert les yeux. À nous, Seigneur, de décider si on continue avec cette vision ou, Seigneur, si on referme les yeux et on reste dans notre propre état continuel d'aveuglement. Il y a des gens, Seigneur, qui vivent exactement la même chose depuis des années, depuis qu'ils sont chrétiens, parce que leur vision n'a pas changé, parce que leur cœur, Seigneur, n'a pas changé. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le temps où est-ce que tu donnes cette conviction par ton esprit de l'importance de vivre une vie consacrée, de l'importance, Seigneur, de prendre cet engagement-là avec toi, Seigneur, de vivre pour toi, de vivre de façon à ce que ce soit agréable, Seigneur, à tes yeux, et d'accepter, Seigneur, tous les changements que tu veux opérer dans nos vies, Seigneur Jésus. C'est alors que la prière du juste est d'une grande efficacité. Seigneur, ouvre nos yeux. Comme Paul priait, Seigneur, pour les Éphésiens, je prie, Seigneur, pour que tu illumines les yeux de notre cœur. On en a grandement besoin. Des pasteurs, Seigneur, aux plus récents convertis, nous avons besoin. Du plus ancien, Seigneur, au plus jeune, nous avons besoin, Seigneur, que tu illumines les yeux de notre cœur, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu nous parles encore et encore. En ton nom précieux, Seigneur. Amen. Alors, rappel pour mardi prochain, l'Assemblée générale des membres de l'Église. Envoyez vos coordonnées à secrétariat.ehjc@gmail.com si vous êtes membre de l'Église pour que vous puissiez recevoir le lien. Pour la transmission qui sera faite via Zoom, donc c'est mardi prochain, le 22 décembre à 19h. C'est d'habitude une rencontre que nous faisons plus vers le début de l'année, mais à cause de la COVID et toute la superbe année que nous avons eue, exceptionnelle. Mais voilà, on se trouve à la faire en fin d'année, c'est correct. une raison de plus de se voir à travers l'écran. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. N'oubliez pas demain matin, bénédiction matinale, 8h30 avec le pasteur Florent Jacomin. Et pour moi, je vous dis bonne soirée. Restez au chaud et shalom.